Vous écoutez Dans la tête d'un leader,
le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs.
En 2008, Christopher a fondé Marseille, devenu aujourd'hui une référence du nautisme et du sport business.
Nous accompagnons marins et dirigeants ambitieux dans le développement de leurs projets.
Nous mettons notre expérience voile au cœur de la performance des entreprises.
Dans ce podcast, avec Amandine, on vous partage notre passion pour le leadership et on vous emmène
dans la tête d'un leader. Christopher y reçoit ses confrères et amis, les plus grands marins de la planète.
Amandine, quant à elle, accueille des dirigeants tout aussi inspirants.
Un épisode voile,
suivi d'un épisode business,
mais toujours les mêmes thématiques abordées. Motivation, concentration, gestion de crise et prise de décision.
Afin de décrypter ensemble, avec nos invités, les ressorts du management en mer comme à terre.
Et d'entrée, dans la tête d'un leader.
Pour ce nouvel épisode de notre podcast Dans la tête d'un leader, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Melouki. Sarah, tu as fondé et dirige aujourd'hui Cosmecode, une start-up beauty tech selon le terme technique pour nos auditeurs, une start-up dans l'univers de la cosmétique, qui, comme tu aimes à le dire, construit le futur de la beauté. Vous avez notamment, avec ton équipe, développé un Shade Finder, nouvelle génération, qui permet de déterminer sa teinte de fond de teint en quelques secondes et dans n'importe quelle marque. Mais revenons un peu en arrière. Après une expérience professionnelle dans l'audiovisuel et la communication, la vie te force, ou t'offre, tu aimes voir les opportunités dans les temps difficiles, un nouveau chemin. Le choix s'impose, reprendre des études ou entreprendre. Tu ne veux pas choisir, alors tu te lances à corps perdu dans les deux. Aujourd'hui, tu es doctorante en pharmacie et tu soutiendras bientôt ta thèse. Tu es également diplômée du master spécialisé entrepreneur en double cursus avec Centrale et l'ESSEC, excusez du peu. Tu te formes également au développement informatique en intégrant l'école 42. La stimulation intellectuelle est ta vitamine. Tu entreprends avec le cœur et nous partages dans cet épisode, sans filtre, tes méthodes d'entrepreneur pour décider, motiver, te concentrer ou encore gérer la crise. Je suis certaine que ton énergie communicative va ravir nos auditeurs. Sarah, bonjour et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un leader.
Merci, merci de me recevoir.
Alors, comme tu le sais, nous avons désormais une traditionnelle question pour démarrer ce podcast qui est de demander à nos invités quelles sont leurs devises ou leurs mantras. Alors, tu ne vas pas couper à la tradition et je vais donc te demander pour commencer de partager avec nos auditeurs ta devise.
Voilà, j'en ai plusieurs. Qui m'ont accompagnée tout au long de ces années. Celle qui résume le mieux mon parcours, c'est cette citation qui dit
il ne savait pas que c'était bonjour impossible. Bonjour et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un leader.
C'est celle qui résume un petit peu mon parcours. Sinon, une autre que je répète très souvent à mes filles, c'est que si tu ne sais pas être heureuse avec un peu, tu ne sauras pas être heureuse avec beaucoup. Le bonheur n'est pas dépendant effectivement de ce que tu possèdes ou de la situation dans laquelle tu te trouves ou tu ne te trouves pas. C'est vraiment dépendant de comment tu décides de percevoir les choses et de réagir à chaque situation.
C'est extrêmement intéressant. Hein. Merci pour cette entrée en matière pleine de belles valeurs. Et je pense que ce que tu partages là, ça guide aussi ton parcours entrepreneurial.
Absolument, absolument. C'est mon parcours entrepreneurial. De toute façon, il peut pas être dissocié de qui je suis profondément. Et je pense que l'entreprise finalement ressemble à l'entrepreneur, entrepreneur sans eux et entrepreneur avec eux. Donc oui, c'est impossible de dissocier les deux, effectivement.
Alors, merci pour ce premier partage. Nous avons donc pour habitude de traiter 4 grandes thématiques dans ce podcast Dans la tête d'un leader. Et donc, si tu m'y autorises, je vais rentrer dans ta tête pour savoir comment tu fonctionnes sur un certain nombre de sujets. Le premier thème, qui est un de nos thèmes favoris, c'est la prise de décision.
évidemment, tout entrepreneur, tout dirigeant d'entreprise est confronté à tout un tas de décisions à prendre dans son quotidien, des petites décisions comme des décisions extrêmement importantes et très stratégiques. Et donc, ce que j'aimerais savoir, c'est comment toi, tu fonctionnes pour prendre tes décisions, que ce soit par rapport à tes projets stratégiques, mais aussi à des choses plus du quotidien.
Ben, c'est assez simple et finalement, c'est un exercice qui est pas très compliqué pour moi, tout simplement parce que je me sers du sens logique. Beaucoup de gens disent qu'ils fonctionnent à l'intuition, etc. C'est pas du tout la façon dont je fonctionne. Moi, je me sers de la logique, tout simplement. Si je ne sais pas sur quoi baser ma décision, je vais me servir de data. Si je n'ai pas de data, je vais évaluer les risques attribué à chaque option qui se propose à moi. Donc c'est vraiment le sens logique. Par contre, il y a une dimension évidemment émotionnelle, il y a la peur, des fois on prend des risques évidemment, mais si dans la balance on se rend compte que on est capable d'assumer ces risques-là et que la récompense associée à la réussite de cette décision est importante, ben l'un dans l'autre, ça vaut le coup. Et puis la peur, moi, j'ai appris à ne pas la laisser me contrôler, ne pas la laisser contrôler ma vie ni mes décisions. Il y a cette citation aussi qui dit le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est juste la capacité à la dépasser. Moi, j'ai peur évidemment tout le temps. C'est normal, je suis un être humain. Mais voilà, je la laisse évidemment pas me contrôler. C'est vraiment mon sens logique qui dicte mes décisions.
Mais alors, du coup, est-ce que tu peux nous partager un exemple d'une ou deux décisions, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, qui t'auraient permis de mettre en œuvre cette méthode de prise de décision que tu nous décris là ?
Oui, c'est quasi quotidien, mais quelques-unes des grandes décisions que j'ai eu à prendre, c'est au départ, avant de lancer mon entreprise, qui aujourd'hui a pour mission de digitaliser le conseil personnalisé, moi j'étais partie sur un tout autre projet, un projet plutôt simple au final, qui était un projet de site e-commerce dans la clean beauty. Parce que j'ai un background en pharmacie, donc je suis doctorante en pharmacie, et donc je voulais faire un petit e-shop qui référence des produits cosmétiques dont j'aurais validé la formulation. Et puis finalement, j'ai étudié le prévisionnel de ce projet, et là, c'est la data qui a guidé ma décision. Donc la donnée que j'avais sous les yeux quand j'ai fait les prévisionnels me montrait que le projet n'était pas rentable parce que les coûts marketing en ligne sont trop importants. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que au moment où je voulais faire ce projet, une autre jeune femme s'est lancée sur exactement le même projet. Mais elle, pour le coup, elle a pas fait machine arrière, elle s'est lancée. Et je viens d'apprendre aujourd'hui, 4 ans plus tard, que malheureusement ce projet ferme. Voilà. Donc moi, j'ai basé cette décision de pivoter mon activité et de ne pas aller au bout de ce projet sur de la data, sur de l'information. C'est une première grande décision que j'ai prise. Aujourd'hui, c'est assez rigolo d'ailleurs, j'ai eu la preuve que j'avais raison. Une autre grande décision que j'ai prise, c'est donc une fois qu'on a décidé de digitaliser le conseil personnalisé dans le secteur de la beauté. Alors ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce qu'on fait en vrai ? Donc effectivement là, donc soit on se lance à corps perdu dans cette grande idée et on développe une intelligence artificielle hyper poussée, hyper développée pour fournir du conseil aux consommatrices et aux consommateurs basé sur de l'intelligence artificielle. Ou alors, on se dit, comme ce que moi j'ai fait, ok, ça a l'air chouette, mais je suis pas sûre qu'au final, c'est vraiment de ça dont les consommateurs et les consommatrices ont besoin à la fin. Donc, on va juste d'abord réduire le risque, vérifier cette hypothèse pour ensuite décider si on continue ou pas. Et heureusement que je l'ai fait encore une fois, parce qu'on a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé un produit basé sur l'intelligence artificielle qui recommande des produits dans différentes catégories. Alors qu'en vrai, c'était juste un fichier Excel que moi j'avais fait derrière, mais on donnait l'impression, grâce à ce prototype, que c'était une intelligence artificielle hyper smart, hyper intelligente. Et donc, on a eu 3000 personnes qui ont pris connaissance de ce fameux prototype. Et sur les 3000, eh ben, il y a personne qui a acheté les produits recommandés. personne. Donc, heureusement, encore une fois, que j'ai fait ça. Donc là, j'ai réduit le risque. C'est encore une façon de prendre une décision. Mais par contre, ce test avec ce prototype nous a permis d'identifier une vraie opportunité sur une catégorie de produits particulière qui est la teinte de fond de teint. On le sait, hein, quand on veut acheter un fond de teint, trouver sa teinte, la bonne couleur, c'est une galère extraordinaire. Et donc, moi, j'avais pas du tout l'idée au départ de travailler sur le maquillage. Et puis finalement, ça s'est présenté comme une opportunité hyper intéressante. Les utilisatrices et les utilisateurs étaient très intéressés par cette fonctionnalité-là. Et on a décidé de tout arrêter et de ne faire que ça. De ce laser focus, toute notre énergie, toutes nos ressources humaines, tous nos moyens sur cette fonctionnalité et d'être les meilleurs dessus. Et aujourd'hui, on y est arrivé.
Mais c'est exceptionnel ce que tu racontes là, parce que justement, c'est une manière d'utiliser la data avec ce recul d'analyse aussi, puisque quelque part, la data brute, elle vaut pas grand chose, puisque pour reprendre l'exemple que tu citais, j'imagine que la personne qui s'est lancée, elle avait plus ou moins les mêmes data que toi, mais en tout cas elle en a pas fait la même exploitation. Donc tu disais que tu es branché data et donc que tu laisses un peu l'intuition de côté. Est-ce que tu n'as pas l'impression quand même que à force de rencontrer des situations, tu as une manière aussi de capter des choses qui font que tu arrives à prendre tes décisions aussi en intégrant quelque part ce côté intuitif. Alors je sais pas si c'est le mot, mais tu comprends ce que je veux dire.
Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, et non, c'est même l'inverse. Je me méfie énormément des intuitions. Parce qu'on croit savoir des choses, on a des croyances en nous, et tant qu'on les a pas confrontées à la réalité, ça ne reste que des croyances. Et j'ai eu tellement de surprises dans ma vie en pensant savoir des choses et finalement en me rendant compte que c'est tout l'inverse, que en réalité je me méfie énormément des intuitions et des miennes encore plus. Pas qu'elles soient mauvaises, la preuve finalement j'ai souvent raison, mais ouais, l'intuition sans data, sans information, sans rien, pour moi ça ne vaut rien.
Je comprends. Et dans ta manière de fonctionner dans ton entreprise aujourd'hui, tu es seule à décider, tu fonctionnes avec des personnes un peu ressources qui aussi participent à tes décisions?
Toute l'équipe participe à mes décisions. Je ne suis pas omnisciente, donc je suis très humble dans ma façon d'approcher les choses, en tout cas j'essaye de l'être, et j'implique systématiquement toute l'équipe dans les prises de décision. Mais au final, c'est moi qui prends la décision, c'est moi qui ai la vision, c'est moi qui sais pourquoi, parce que moi j'ai cette vision 360 que mes équipes n'ont pas forcément. Donc des fois, une décision technique peut être prise sur la base d'une information business. Et ça, les équipes techniques vont pas forcément le comprendre tout de suite. Donc il va falloir que je passe par une étape d'explication. Mais voilà, c'est important que j'aie aussi leur regard et leur avis sur les tenants et les aboutissants et les aboutissants. Comment on dit, les tenants et les
aboutissants? Oui, les aboutissants. Oui, les aboutissants.
d'une décision. Donc, oui, ça reste des discussions collégiales. Ça, c'est très important. Je ne peux pas décider parce que je ne sais pas tout. Mais au final, le dernier mot, c'est moi qui l'ai. Parce que je suis celle qui a vraiment la vision à 360.
Oui, évidemment. Et tu parlais d'acceptation de la décision. Comment tu fonctionnes avec ton équipe, justement, dans l'exemple que tu citais, pour faire accepter une décision quand les personnes n'arrivent pas forcément à en être convaincues par elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas, comme tu disais, tous les tenants et aboutissants?
Les gens sont pas bêtes, hein. Il suffit de leur expliquer. La dernière fois, je me souviens, je leur ai fait une petite démonstration où je leur ai montré. Donc là, je parle à des développeurs, hein, des développeurs et des développeuses. Et mon objectif, c'est de leur montrer pourquoi je fixe une deadline et pourquoi respecter une deadline est important. En fait, eux, ils en savent rien. Ils savent pas pourquoi c'est important. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé avec eux une documentation financière où il y a un prévisionnel donc sur l'année. Et je leur montre par A plus B, OK, le non-respect de la deadline, voilà l'impact que ça a sur la trésorerie. Si on ne sort pas le produit à cette date-là, ça veut dire que notre trésorerie, elle est négative 6 mois plus tard. Et ça veut dire que la boîte coule. Donc voilà, c'est des gens, ils sont pas idiots, ils comprennent. C'est juste qu'ils ont pas l'information. Et à partir du moment où on partage avec eux des informations qui sont même parfois en dehors de leur domaine d'expertise, ils comprennent très très bien. Et depuis, je n'ai aucun problème à faire respecter les deadlines parce que c'est pas juste des lubies de il faut fixer des deadlines pour fixer des deadlines. Ils savent qu'il s'agit de la survie de l'entreprise, de la survie de nos postes à toutes et à tous.
Nous allons passer sur un autre thème qui nous est cher aussi chez Marseille, qui est la gestion de crise. J'imagine que dans ton parcours, à la fois personnel et d'entrepreneur, tu as dû vivre quelques crises. Et je ne parle pas forcément de la crise majeure que nous avons traversée, voire que nous traversons tous encore, mais de manière plus générale, des choses qui te sont personnelles ou qui sont personnelles à ton entreprise. Quelle est la pire crise que tu aies traversée dans ta vie ?
C'est rigolo parce que en t'écoutant me poser cette question, je me rends compte que je suis vraiment branchée différemment. J'ai du mal à me rappeler de crise, mais tu sais pourquoi? Parce que pour moi, ce sont des opportunités à chaque fois. Et chacune des crises entre guillemets que j'ai traversées ou qui sont perçues comme telles parce que voilà, c'est la norme, ont été en réalité des opportunités incroyables pour moi derrière, parce qu'elles m'ont ouvert des portes sur le plan personnel. Bah, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, je suis devenue maman solo. Et devenir maman pour la première fois, devenir maman solo, évidemment, on réévalue toute sa vie, on réévalue toutes ses décisions, on commence à se projeter et à projeter l'avenir de notre enfant, de nos enfants. Donc, on peut considérer que c'est une crise, mais en réalité, ça a été une opportunité formidable pour moi de tout réévaluer et de prendre une décision. À cette époque-là, je me suis retrouvée maman solo au RSA avec pas de compétences. À ce moment-là, j'avais pas de diplôme d'études supérieures. J'avais rien. J'avais pas de compétences. J'avais vraiment rien. Et donc, le fait de devenir maman solo, j'ai décidé de reprendre mes études. Et comme j'étais plus toute jeune, j'avais pas 18 ans, je me suis dit OK, si je reprends des études cette fois-ci, il faut pas que je me trompe. Donc j'ai pris le temps de bien décider de mon orientation, chose que je n'aurais jamais faite évidemment à 16, 17, 18 ans. Et j'ai décidé aussi d'être ambitieuse, de m'autoriser à être ambitieuse pour une fois. Et donc j'ai décidé d'aller en pharmacie. Et ouais, donc c'est un exemple de crise qui a été très 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 bénéfique pour moi. Une autre crise qui est arrivée quelques années plus tard, pendant mes études en pharma. Donc je suis étudiante, je réussis la première, le fameux numerus clausus là qui nous permet de passer en deuxième année pharma. Donc sur 2000 étudiants, il y en a 130 qui sont pris. Et en général, sur les 130, 80% sont des redoublants. Moi, j'ai réussi à passer du premier coup. Je sais pas trop comment, mais j'ai dû être sacrément acharnée pour y arriver. Mais en tout cas, les années suivantes, donc moi, je me suis dit que j'avais passé le plus difficile, mais en fait, pas du tout. Les années suivantes, j'ai systématiquement redoublé. Parce que c'était trop dur. Et en fait, ces redoublements se sont avérés aussi des opportunités incroyables. Pourquoi ? Parce que j'ai pu élever trois de mes cousines donc qui sont arrivées dans ma vie dans des circonstances évidemment difficiles, très difficiles. Mais voilà, je me suis retrouvée en quelques mois de maman solo étudiante d'une petite fille à maman solo étudiante de quatre filles.
Et puis, mais c'est exceptionnel, ça me donne des frissons de t'entendre raconter cette histoire. Je trouve ça magnifique. Même si effectivement, comme tu dis, je l'imagine, les circonstances devaient être très difficiles, mais c'est tellement beau en fait.
C'était difficile et en même temps, ça a été une opportunité pour vivre une période de ma vie qui a été la plus heureuse de ma vie en fait. Et c'est ce que je dis, si je n'avais pas redoublé. En fait, je n'aurais jamais pu élever mes cousines. Si je n'avais pas redoublé, j'aurais tout de suite été sur le marché du travail. J'aurais pas eu ce recul-là pour prendre le temps de jouer mon rôle de maman, quoi, et de parent et d'éducatrice. Et donc voilà, encore une fois, des crises qui se sont transformées en opportunités incroyables. Et tu vas rire, mais c'est grâce à mes filles que je me suis orientée dans le secteur de la beauté.
Ah bon ?
Moi, je n'avais absolument pas l'idée de travailler dans le secteur de la beauté. Et en fait, ce sont mes filles. Comme deux d'entre elles ont perdu leur maman d'un cancer du sein, donc je savais qu'elles étaient prédisposées à des maladies hormonales et qu'il fallait que je sois très très attentive. Et comme elles étaient préadolescentes, elles commençaient à se mettre des produits, tu sais, bah c'est des jeunes filles, donc en étant étudiante en pharmacie, je me suis dit, oh, il faut que je fasse attention un petit peu à la composition des produits et que je vois si c'est safe pour elles. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au secteur de la beauté, et c'est comme ça que
c'est génial.
J'ai créé mon entreprise dans la beauty tech, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on est en train de discuter avec les plus grands acteurs du secteur de la beauté. Donc là, encore une fois, une crise qui s'est transformée en formidable opportunité.
Alors, à t'entendre, effectivement, moi, ça me met le smile, tu le vois depuis tout à l'heure, parce que tu es pleine de cette énergie positive et qu'effectivement, dans ce que certains voient comme une crise et comme un arrêt, toi, tu y vois une capacité de rebond. Et justement, comment est-ce que tu fais pour être dans cet état d'esprit ?
Je t'avoue que je saurais pas le décortiquer, mais tu sais, il y a cette image très très connue où quand tu vois une certaine forme, une forme rectangulaire de face, tu vois un rectangle, et puis quand tu changes de perspective, finalement tu te rends compte que c'est un cylindre. Je sais pas si tu connais un petit peu cette image.
Oui, je vois.
C'est vraiment ça, et au final c'est le même objet, mais c'est juste la perspective qui a changé complètement la façon dont on perçoit les choses. Et c'est ça en fait, c'est un exercice à faire sur soi-même où on prend du recul. Une chose qui m'aide énormément, c'est vrai, ce dialogue intérieur que j'ai avec moi-même, qui est perpétuel, qui est constant, et je m'autorise à l'avoir. On se moque souvent des gens qui parlent tout seuls.
C'est vrai, c'est mal vu en société.
Mais moi, je trouve ça formidable, les gens qui se parlent tout seuls, parce que ça permet de travailler un petit peu sur son schéma de pensée, d'avoir un écho de ses pensées en les formulant, et puis d'avoir cette forme de discussion avec soi-même. Moi, je le fais souvent. Alors, des fois, c'est audible, des fois, c'est intérieur. En fonction de qui est autour de moi, mais je le fais très 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 souvent. Et c'est vrai que ça aide énormément. Prendre ce temps un petit peu avec soi-même et être confortable avec soi-même et avoir ce dialogue intérieur avec moi-même, moi ça m'aide énormément.
Et quand tu te retrouves, peut-être que tu as été confronté à ça dans ton entreprise récemment, quand tu te retrouves dans une situation où les choses ne se passent, sans parler d'une crise forcément monumentale, mais quand les choses ne se passent pas comme tu les avais imaginées, comme tu avais pu les peut-être les projeter grâce aussi à ton analyse des data, comme tu le disais, quel est ton fonctionnement dans ce cas-là? Quel est le processus que tu as mis en place avec tes équipes pour faire face à ces situations?
Alors, les choses ne se passent jamais comme elles sont prévues, jamais. Donc ça, j'ai appris à l'accepter. Je sais que ça fait partie du process. Et puis, c'est la force de l'expérience. Là, tu en parlais tout à l'heure, la force de l'expérience qui permet aussi de relativiser, de se dire, OK, j'ai déjà vécu ce genre de choses un nombre incalculable de fois. Ça s'est toujours bien terminé au final. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit différent cette fois-ci. Et puis voilà, quand ça se passe pas comme prévu et que ça prend plus de temps, bah c'est que ça doit prendre le temps que ça doit prendre, soit jusqu'à ce que quelque chose se passe, soit jusqu'à ce que j'ai plus d'informations, plus de data. Voilà, mais je suis très très à l'aise aujourd'hui avec le fait que les choses se passent pas comme prévu, que les choses prennent un petit peu plus de temps. J'ai intégré que ça fait partie du process et personnellement ça ne m'angoisse plus du tout. Ça m'angoissait quand j'étais très très jeune et impatiente. Aujourd'hui avec l'âge, il y a un avantage à prendre de l'âge, c'est ça, c'est comme on se rend compte qu'au final, il y a pire, quoi.
Ouais, tu as raison. C'est sûr que c'est, comme tu le disais, hein, au démarrage de cette partie-là, c'est la question de où tu mets ton focus. Et ton focus, effectivement, détermine la manière dont tu vas analyser la situation, c'est sûr.
Et c'est rigolo parce que mes équipes sont beaucoup plus stressées que moi. Alors, je suis obligée de les rassurer systématiquement et de leur dire, mais vous inquiétez pas, ça, les choses viendront quand ça viendra et les choses se passeront quand elles devront se passer. Et puis, quelque part, il y a aussi une forme de confiance en la vie aussi, hein, quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Je sais que on peut pas avoir le contrôle sur tout, en particulier quand on est dépendant d'autres personnes ou d'autres structures ou d'autres process. Bon, mais il faut faire aussi un petit peu confiance à la vie et puis quand en plus on a pris l'habitude de voir les choses positivement sans arrêt, donc ça aide énormément à patienter.
Non, mais c'est sûr que c'est un entraînement en tout cas. Alors, je te propose de passer à la troisième thématique, donc qui est la concentration. Quand on est entrepreneur, tu le sais mieux que quiconque, et en plus tu es même, comme tu me le disais justement, maman de 4 filles, et donc ça aussi, hein, ça prend du temps et de l'attention et de l'énergie. Et donc un des moyens de réussir, en tout cas de parvenir à atteindre ses objectifs, c'est de se concentrer et surtout de rester concentré, d'avoir ce fameux focus qui permet de faire avancer tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Comment est-ce que toi tu fais dans ta vie actuelle pour maintenir un bon niveau de concentration?
C'est certainement une des choses les plus difficiles. Tu as tout à fait raison. C'est une des choses les plus difficiles à faire. Alors heureusement, j'ai un petit peu d'entraînement avec mes études. Puisque évidemment des études en pharmacie, ça demande des couloirs de concentration de plusieurs heures, de deep focus et presque d'état de transe en fait, où le cerveau est dans une bulle et en fonctionnement, jusqu'à ce qu'il soit presque en surchauffe. Donc et puis moi j'adore cet état là où on est un petit peu dans une bulle hyper focus, mais effectivement le seul moyen que moi j'ai trouvé, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est de travailler la nuit, le soir. C'est le seul moyen aujourd'hui que j'ai trouvé efficace, parce que c'est vrai que la journée, il y a des sollicitations constante, des emails, des notifications, et puis les enfants, on n'en parle même pas. Mais il y a une autre chose que j'ai mise en place à certains moments clés dans ma vie où il fallait vraiment que j'ai ces couloirs de concentration très 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 intenses. Donc à l'approche des examens, par exemple, ou quand je dois finir, par exemple, en ce moment, je dois finir d'écrire mon doctorat, donc j'ai besoin d'avoir ces grands couloirs de deep focus, je vais faire très mauvaise mère, hein. Je me débarrasse de mes filles. J'ai pas le choix, je n'y arrive pas autrement. Je le fais sans culpabilité aucune. Enfin, évidemment, je me sens coupable, mais je m'interdis de me sentir coupable. Et donc, je confie mes filles à de la famille, à mes parents, etc. Et ben là, je l'ai fait à Noël, où j'ai pris une semaine, j'ai loué une chambre. Je te jure que je n'ai même pas regardé dans quelle ville c'était. Je sais que c'était pas loin de là où j'allais poser ma fille. Et j'ai loué cette chambre pendant une semaine, et j'étais toute seule, hyper concentrée, et j'ai pu avancer sur ma thèse de doctorat. Donc voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. C'est pas la solution idéale, mais je suis pas non plus dans la situation idéale. Donc pour moi, c'est ça, c'est travailler le soir, travailler la nuit, et me créer des espaces de deep focus de plusieurs jours où je suis toute seule.
Et ben comme de toute façon, comme tu le dis, on fait aussi hein, avec les moyens du bord, hein, comme on dit. Et donc on s'organise hein, dans les contraintes qui sont chacun les nôtres. Et je ne crois pas qu'avoir une maman qui est capable de faire montre de concentration et d'abnégation pour atteindre ses objectifs, ça soit un mauvais exemple. Bien au contraire.
J'espère.
Tu sais. Et alors du coup. Ça c'est pour toi, mais comment est-ce que tu fais pour garder le focus aussi pour tes équipes, ou en tout cas faire en sorte que elles gardent le focus? Tu parlais des deadlines tout à l'heure, alors de leur partager effectivement l'importance de respecter ces deadlines et pourquoi c'est important de les respecter, mais pour autant on sait très bien que dans le monde dans lequel on vit, tu parlais des notifications, des emails, des distractions, on vit dans un monde où le temps de concentration est quand même restreint, et en tout cas est souvent très dérangé. On sait très bien qu'en plus, quand on se déconcentre pour se reconcentrer, bah, ça prend toujours quelques secondes, voire quelques minutes. Et donc tout ça mis bout à bout, c'est très complexe. Comment tu fonctionnes avec tes équipes sur ce sujet-là?
Oui, alors j'ai une façon très simple de fonctionner, c'est que je les sollicite le moins possible. Donc nous, on est en 100% remote. Donc ça facilite énormément les choses, parce que chaque membre de l'équipe peut aussi se créer son environnement. Ils le savent, hein, ils sont en responsabilité. Moi, je déteste infantiliser les gens. Ils sont pas idiots, ils savent qu'ils doivent fournir du bon travail pour que l'entreprise grossisse et qu'on soit tous gagnants in fine, que ça crée de la stabilité pour tout le monde. Donc ils savent qu'ils ont ce travail-là à faire, de trouver leur propre environnement. Ça passe par de l'expérimentation aussi. Donc, je suis très tolérante de ce côté-là, parce que quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident de tout de suite trouver le bon environnement de travail, le bon rythme de travail, etc. Donc, c'est un travail qu'on fait en général dans les quelques semaines, mois après l'arrivée. On en discute énormément. Et ensuite, moi aussi, mon travail, c'est de les solliciter le moins possible. Donc, on a une réunion par jour qui dure 30 minutes maximum, où chacun repart avec une tâche extrêmement précise à effectuer pour le lendemain. Voilà. Donc, les tâches sont smart, sont bien définies, sont réalistes, sont mesurables pour le lendemain, et après ça, je les laisse tranquilles. Si eux ont besoin de me solliciter pour quoi que ce soit, je suis à disposition, mais moi, mon travail, c'est de leur ficher la paix et de les laisser faire leur travail. Et jusqu'à présent, je l'ai jamais regretté, quoi. Quand on met les gens en responsabilité, encore une fois, et qu'on les respecte et qu'on respecte leur intelligence, ils le rendent, hein. Moi, je sais que je suis en train de créer l'environnement de travail dans lequel j'aurais, moi, adoré travailler. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe très très bien. Les petites techniques de management qu'on a mis en place portent leurs fruits. En tout cas, tout le monde a l'air ravi pour le moment.
Ben c'est assez intéressant de voir ça, et tu as raison de souligner le rôle du manager dans cette question de la concentration, parce que dans la perturbation du fonctionnement quotidien des entreprises, il y a aussi la tendance au micromanagement et au reporting. Alors non pas que j'entende que, et je pense que c'est pas ton point non plus, qu'il faut pas avoir de reporting, et c'est au contraire, tu me décris voilà des points très réguliers, etc. Mais en revanche, c'est comme tu dis, laisser la liberté à chacun de s'adapter à son mode de fonctionnement. Et je crois qu'aujourd'hui, la clé, elle est un peu là aussi dans la manière de fonctionner des entreprises. Nous, on travaille beaucoup sur les soft skills, sur le savoir-être. Et tu disais, je crée l'environnement dans lequel j'aimerais moi, ou j'aurais aimé moi évoluer. Et je crois que c'est aussi ça la clé de réussite, de se dire, on n'a pas tous le même mode de fonctionnement, on n'a pas tous les mêmes forces, les mêmes besoins, et comment on fait, ben voilà, dans une entreprise pour prendre en compte tout ça. Et aujourd'hui, toi, tu as l'impression que tu as un modèle de collaborateur, c'est-à-dire que quand tu recrutes des gens qui ont un profil particulier, ou au contraire, tes équipes sont relativement hétérogènes?
Écoute, je le fais pas vraiment exprès, mais non, j'ai des équipes très diverses. Je sais pas comment ça se fait, c'est assez étrange quand je vois qu'on reproche souvent aux entreprises de recruter le même type de profil à chaque fois. En plus, moi, je recrute des devs, des techs, et donc on reproche souvent au monde du dev d'être un petit peu monoprofil, et c'est pas du tout le cas dans mon entreprise. On a des profils très très diverses. Des gens qui ont des backgrounds très différents, des gens qui ont des modes de vie aussi très différents, et je trouve que ça apporte une richesse incroyable. Et on a ce petit rituel qu'on met en place lors de nos daily meetings, où en fait c'est pas moi qui gère les meetings, c'est chacun son tour dans l'équipe est en charge du meeting chaque jour, et chaque jour on a un nouveau boss, en fait on a un nouveau un nouveau patron, donc c'est pas tout le temps moi, et la personne en charge du meeting, pendant les 5 premières minutes, on a une section qu'on appelle What did I learn, et ça doit durer 5-10 minutes grand maximum quand c'est extrêmement passionnant. Et donc la personne partage quelque chose qu'elle a appris, ou qui l'a intéressé, ou qui l'a intrigué. Alors ça peut être en relation avec le travail, mais pas forcément, et d'ailleurs c'est souvent pas le cas. Par exemple, aujourd'hui, une de mes développeuses, donc qui est dans le service intelligence artificielle, nous a partagé des informations sur le thé et l'histoire du thé. Et c'est génial, parce que en fait c'est un espèce de moment où on brise la glace, où on apprend à se connaître les uns les autres, où on passe à un moment super drôle, où on fait des blagues, voilà, et on crée une cohésion d'équipe. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne.
Tu viens, voilà, sans le savoir, de m'offrir déjà une de tes clés de la motivation de tes équipes. Comment est-ce que, en plus, tu m'as précisé que vous travaillez en full remote, comment est-ce que tu arrives à motiver tes équipes dans ce contexte particulier?
Il y a une chose, alors ça commence très très tôt, et ça commence avant le recrutement. Lors du recrutement, lors de l'entretien, je considère que c'est pas un entretien, que c'est un échange, une discussion de deux personnes qui apprennent à se connaître. Et donc, je considère aussi, et c'est comme ça que je fais l'introduction de cet entretien entre guillemets, où je dis, le candidat a besoin de me convaincre entre guillemets, mais moi aussi j'ai besoin de convaincre le ou la candidate. Donc voilà, c'est vraiment un échange où on essaye de se comprendre, de se connaître, et pour moi cette étape-là, elle est clé. J'ai besoin de comprendre quelles sont les motivations profondes de la personne que j'ai en face de moi. Et je vais être pratiquer une écoute extrêmement active où je vais être très très attentive même aux signaux un petit peu faibles et je vais vraiment essayer de comprendre ce qui motive la personne. Donc quand je vais avoir par exemple une personne c'est arrivé avec la développeuse dont je parlais tout à l'heure dans le service intelligence artificielle. Elle est venue chez moi en me disant moi je veux faire du front-end, donc développer des interfaces. Et donc on a commencé à discuter et puis je découvre qu'elle a un background en mathématiques, que c'est une fille qui est extrêmement intelligente, qui est brillante. Et puis je commence à lui poser la question, mais est-ce que tu as vraiment envie de faire du front-end ou est-ce que finalement tu es en train de te résigner parce que tu te dis que c'est là qu'il y a des opportunités d'emploi? Et puis finalement en creusant, je réalise qu'elle est extrêmement intéressée par l'aspect scientifique et je la vois mais parfaitement faire de l'intelligence artificielle, du machine learning et du deep learning. Et donc je creuse le sujet et je vois que c'est vraiment quelque chose qui la motive profondément. Et donc je lui dis tu as ta place chez Cosmecode à condition que tu t'écoutes. Si c'est pour du front-end, tu seras pas heureuse. Je le sais et je sais que malgré tout ce que je pourrais faire chez Cosmecode, tu seras pas heureuse. Et là, ça fait 6 mois et elle est mais extrêmement heureuse. Elle est incroyablement heureuse. Et donc voilà, c'est extrêmement important de comprendre les motivations profondes de la personne qu'on a en face de nous avant le recrutement. Et puis après le recrutement, moi j'ai des one-on-one hyper intimes avec chacun des membres de mon équipe de manière mensuelle. On va pas du tout parler technique, on va pas du tout parler mission, on va pas du tout parler objectif. On parle pas de ça, c'est pas le but du one-on-one. Le one-on-one, mon objectif, c'est est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es heureuse? Oui, qu'est-ce qu'on a fait qui te rend heureux, qui te rend heureuse? Non, qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre heureux, pour te rendre heureuse? Et donc, je m'assure chaque mois que les missions sur lesquelles les gens qui travaillent avec moi sont alignées avec les motivations profondes et les objectifs profonds de chacun de mes collaborateurs et de mes collaboratrices. Et moi, je pars du principe que leur chemin avec moi est limité dans le temps. Je pars du principe qu'ils ont des objectifs professionnels beaucoup plus gros. Et je m'assure que je leur donne les moyens d'atteindre ces objectifs professionnels. Et contre-intuitivement, c'est le meilleur moyen de les garder.
Bien sûr. Bien sûr.
Bizarrement.
Bizarrement ou pas d'ailleurs, parce que tu t'intéresses à l'être profond et comme tu dis, à ce qui l'anime au sens premier du terme.
Totalement.
Et toi, ta propre source de motivation, c'est quoi ?
Je sais pas. Qu'est-ce que c'est je sais pas. C'est une drôle. C'est marrant. C'est marrant. Que tu me retournes.
Moi, j'ai une petite idée. Hein. En t'entendant, ça fait une quarantaine de minutes qu'on parle toi et moi, et j'ai une petite idée de ta source de motivation.
Je sais pas. Est-ce que c'est mes filles et en même temps, j'ai pas envie de leur faire porter cette responsabilité-là. Est-ce que c'est moi et juste que j'aime le challenge intellectuel et je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite quand même, donc j'adore les challenges, j'adore me fixer des nouveaux objectifs encore plus grands, c'est quelque chose qui me motive énormément, donc je dirais que c'est ça, ouais, juste le jeu intellectuel en fait, moi ça m'amuse énormément.
Moi j'ai le sentiment aussi, hein, permets-moi de te livrer mon ressenti par rapport à ce notre échange, j'ai le sentiment que tu es animée aussi par cette connexion avec l'autre, par cette indépendamment du contenu de ton métier, et ça j'en doute pas avec le parcours que tu as brillantissime, il est clair que tu dois t'ennuyer vite et que la stimulation intellectuelle est indispensable à ton bien-être, ça c'est certain, mais au-delà de ça j'ai l'impression que t'es profondément, et c'est peut-être ce qui est la raison première pour laquelle j'ai eu envie de t'inviter dans notre podcast, c'est cette humanité qui t'habite quelque part.
Tu veux que je te dise, au tout début de Cosmeco, donc il a fallu que je commence à recruter les premières personnes, j'avais très très peur parce que je pensais que je serais très mauvaise manager. Et puis finalement, c'est un des trucs que je préfère. Donc c'est vrai, t'as certainement raison, c'est quelque chose qui me motive énormément d'avoir ces one-on-one mensuels et puis de me rendre compte que les gens qui bossent chez Cosmecode sont alignés avec nos valeurs et sont hyper heureux et sont motivés, et ça leur crée pour eux personnellement de la valeur au-delà du salaire, au-delà du confort du travail, parce que finalement c'est pas ça qui anime les gens, c'est vraiment donner du sens à ce qu'ils font. Ouais, c'est vrai, t'as raison, je suis d'accord. Il va falloir que je l'admette à un moment.
Peut-être, tu vois, j'ai ouvert une petite porte. Nous arrivons, Sarah, à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as un conseil ou l'envie de partager quelque chose qu'on n'a pas abordé aujourd'hui dans notre discussion?
Écoute, la conclusion que je dirais, moi, c'est vraiment, j'essaye de créer l'entreprise dans laquelle moi j'aurais aimé travailler. J'essaye d'être la manager que moi j'aurais voulu avoir. Donc c'est vraiment, au final, je pense que chacun, chacune en position de responsabilité dans une entreprise doit se poser ce genre de questions. Et puis j'aimerais finir aussi sur la question de la féminité, des femmes et de l'ambition au féminin. C'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas suffisamment. L'ambition au féminin, ça reste encore malheureusement mal perçu. J'avais fait une conférence une fois sur, et le titre c'était « Et si c'était toi, la prochaine PDG de L'Oréal ?» Et ce titre de conférence a énormément fait réagir. Les femmes disaient, bon, peut-être pas la PDG de L'Oréal, mais oui, pourquoi pas, un petit peu plus d'ambition, etc. Et je me suis demandé si ça avait été, et si c'était toi le futur PDG de Renault ou de Peugeot, est-ce que j'aurais eu les mêmes réactions? Eh ben, j'en suis pas sûre.
Tu as raison.
Ouais. Et je pense qu'en tant que femme, et c'est sur ce point-là que je me fais violence, par contre, où je me fais violence pour prendre la parole, pour être ambitieuse. C'est pas naturel pour moi. C'est pas évident. C'est pas instinctif. Où je dois vraiment raisonner avec moi et aller contre ma nature. Mais je trouve que c'est important, et c'est encore plus important depuis que j'élève 4 filles, où j'ai pris conscience à quel point les femmes, il fallait pas qu'on attende qu'on nous donne de la place, mais fallait qu'on la prenne. Et donc voilà, évidemment j'aimerais mieux être dans mon coin toute seule à parler à personne, parce que c'est plus tranquille, c'est plus confortable, et à ne pas se prendre de critiques, ou à ne pas se prendre de « mais pour qui elle se prend celle-là » ou autre, mais non, je pense qu'il est temps aujourd'hui, stop quoi, 2023, c'est fini quoi, même pas 10% de femmes dans la tech, on parle même pas de femmes décisionnaires à des postes de décision, stop mesdames, on prend nos responsabilités, on se fait un petit peu violence, pour nous, pour nos filles et pour leurs filles, je trouve que c'est important.
Écoute, je n'aurais pas mieux dit. Ceux qui nous écoutent savent mon engagement aussi sur ce sujet-là. Donc, je suis ravie. C'est pas un thème qu'on aborde souvent dans ce podcast, mais je suis ravie que tu l'abordes, et j'espère que le message est entendu et que le message est aussi entendu par nos camarades hommes, parce qu'il n'y a pas d'avenir sans la complémentarité avec eux, et il n'y aura pas d'avenir pour le droit de la femme et pour la femme en entreprise si l'homme n'est pas dans le combat à nos côtés, et dans le combat au sens noble, et pas dans le combat guerrier qui oppose l'homme et la femme. Ça, c'est vraiment dépassé aujourd'hui. Donc merci pour ce partage, merci pour l'image voilà que tu donnes aussi, et puis voilà, j'espère que tous ceux qui nous écouteront iront voir aussi un peu plus ton profil et seront inspirés comme je l'ai été par ton parcours. Merci beaucoup, Sarah.
Merci à toi, Amandine.
Vous venez d'écouter Dans la tête d'un leader,
le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs.
Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, de nouveau avec un marin ou un dirigeant inspirant.
En attendant, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux.
Et rendez-nous visite sur marseille.com ou sur notre page LinkedIn. À très vite !